France Inter.
Bonsoir Kevin Dufresne.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la voix de la rigueur.
Celle que compte emprunter Gabriel Attal et son gouvernement. Le Premier ministre chahuté par les oppositions à l'Assemblée aujourd'hui qui demande des comptes sur le déficit budgétaire plus important que prévu en 2023. La droite veut couper plus fort. La gauche réclame des impôts sur les plus riches.
Et les autres titres, Kevin?
Encore au moins 6 victimes portées disparues. Les secours s'activent toujours à Baltimore après les fonds d'un grand pont autoroutier.
Et on en parle avec Michel Virlegeux, il est ingénieur des ponts et chaussées. Il a notamment fait le pont de Normandie, figurez-vous, et c'est l'invité de ce journal.
Réquisition, le mot est lâché. Le ministre des Armées n'exclut pas d'y avoir recours dans l'industrie pour accélérer la production d'armes à destination de l'Ukraine. Et puis ça fait partie des choix face à l'inflation. Le marché de la livraison de repas à domicile a baissé en France de 5% en un an.
Au sommaire du 18-20, ce soir, jamais les relations n'auront été aussi mauvaises entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. Est-ce que ça change quelque chose au déroulé de la guerre? Est-ce que ça ébranle un peu ou pas du tout la société civile israélienne? Nous y viendrons au tout début d'un jour dans le monde. Ce soir, vous rencontrerez aussi des Irakiens dont le village, la maison, les élevages ont été détruits pendant la guerre contre Daesh. Aujourd'hui, on leur donne 3000 euros pour qu'ils rentrent chez eux. Kevin, vous nous raconterez ce scandale sanitaire au Japon. Franck Madvon dans Le Monde à 18h50 regarde ce que va devenir la relation entre la France et le Sénégal. Et Caroline Gillet pousse une porte de l'Europe comme chaque mardi. Elle est à Kourou ce soir. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne. Et il y a Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Pour vous qui êtes agriculteurs, pour vous qui avez suivi la crise agricole, pour vous qui consommez évidemment les produits agricoles français, les produits ukrainiens, l'effet du plan éco-phyto et bien d'autres sujets encore, le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000.
France Inter.
Depuis le début du quinquennat, c'est le sujet casse-tête pour le gouvernement.
Les finances publiques, le budget de l'État qui depuis 2 ans ne passe au Parlement que grâce au 49-3. Et ce matin, l'INSEE de remettre une pièce dans la machine, si l'on ose dire, en confirmant que le déficit public de la France a grimpé à 5,5% du PIB l'an dernier, plus que ce que Bercy avait prévu. Le ministère de l'économie qui assure que ce n'est pas lié à trop de dépenses, mais à de moindres recettes, notamment de TVA, en raison du ralentissement de l'inflation. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
En direct de l'Assemblée nationale, où cet après-midi, peu importe les raisons, les oppositions n'ont pas retenu leur coup contre le gouvernement à ce sujet.
Ouais, c'est le moins que l'on puisse le dire, hein, Kevin. Et c'est surtout Bruno Le Maire qui en prend pour son grade de la part de la députée insoumise Charlotte Leduc d'abord.
Le déficit public s'élève à 5,5% du PIB pour 2023. Votre ministre de l'économie l'avait annoncé entre deux romans à 4,9. Vous avez fait preuve soit de malhonnêteté, soit d'incompétence. Vraisemblablement les deux.
Critique également du député RN Philippe Lothiot qui se moque lui aussi de la passion de Bruno Le Maire pour la littérature.
Tout cela, c'est votre action dont vous continuez entre deux lignes à vous glorifier, déclarant récemment que votre politique économique a donné, je cite, de très bons résultats.
Du côté des LR, c'est le patron du groupe Olivier Marleix qui estime que la situation est grave.
Elle est grave parce que vous avez menti aux Français. Vous saviez, dès la présentation en octobre du budget 2024, que vos chiffres étaient faux. Le Sénat l'a montré.
Le visage de Bruno Le Maire se ferme. Le ministre de l'économie répond que le gouvernement a dû faire face à des crises Covid, inflation, puis s'adresse en particulier à la droite.
Maintenant qu'il faut revenir à des comptes publics sains, quand il faut supprimer le bouclier tarifaire sur le gaz, nous sommes seuls. Quand il faut supprimer le bouclier tarifaire sur l'électricité, nous sommes seuls. Et quand il faut passer la réforme des retraites, messieurs les Républicains, vous n'êtes pas au rendez-vous.
Voilà un vrai ping-pong entre les oppositions et le gouvernement, mais le Premier ministre lui reste stoïque. Gabriel Attal affirme.
Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail.
Le travail, c'est le thème justement du séminaire gouvernemental qui réunit demain à Matignon autour du Premier ministre.
Claire Flochel, service politique d'Inter en direct de l'Assemblée grâce aux moyens techniques de Benjamin Thuot. Cet exercice des questions au gouvernement, Gabriel Attal le mènera d'ailleurs seul lors des séances du mercredi durant 5 semaines. On l'apprend ce soir, ce sera à partir du 3 avril. C'est une expérimentation dans un premier premier temps sur le modèle de ce qui se fait notamment au Royaume-Uni. Mais revenons-en à la question du déficit. Pour répondre à cette situation, on l'a entendu, le Premier ministre parle de rigueur. Ces dernières semaines, Bercy parle de faire des économies, de coupes budgétaires, 10 milliards d'euros supplémentaires cette année, au moins 20 l'an prochain. Mais le ministre de l'économie continue de refuser toute hausse d'impôts, sauf en ce qui concerne les fournisseurs d'énergie. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Bruno Le Maire parle à nouveau de taxer les super-profits des énergéticiens.
Ah oui, en fait, taxer les super-profits de l'énergie, c'est déjà le cas depuis l'an passé. Les énergéticiens acquittent une contribution, sauf qu'elle rapporte très peu. Tout au plus, 600 millions d'euros de recettes, à peu près 5 fois moins que l'évaluation de départ. Pour Bruno Le Maire, ce n'est pas acceptable. Le ministre de l'économie y voit un problème de justice, d'efficacité fiscale. Au départ, le mécanisme devait permettre de récupérer une partie des super-profits engrangés par les producteurs d'électricité. Durant la crise, ils ont pu vendre leurs mégawatts à prix d'or sur les marchés. Un véritable pactole de 30 milliards d'euros avant impôts, calcule la Cour des comptes. Les sages jugent eux aussi les recettes pas à la hauteur et ils proposent de calculer cette contribution autrement, d'améliorer son rendement. Car à la demande du gouvernement, ces critères sont très restrictifs. Ils excluent pour l'essentiel le nucléaire, le charbon et le gaz. Seuls les producteurs d'énergie renouvelable à base d'éolien et de solaire paient la contribution. Quant aux super profits des pétroliers ou des gaziers comme Total Energy ou Engie, ils sont taxés par un autre mécanisme. Mais là encore, l'État n'en espère pas grand-chose. En tout cas, pas de quoi régler la facture du bouclier tarifaire.
Les précisions de Delphine Simon. Menacée de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile, c'était fin février. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris a finalement quitté ses fonctions. Le rectorat le confirme ce soir. Décision prise pour des raisons de sécurité, d'après un message interne diffusé dans l'établissement, envoyé par son successeur. Décision prise la semaine dernière. On y revient dans le journal de 19h.
Les images font le tour du monde depuis tôt ce matin.
Oui, celle du pont Francis Scott Key de Baltimore aux États-Unis qui se tord puis s'effondre quasi instantanément la nuit dernière après que l'un de ses piliers ait été percuté par un cargo qui battait pavillon de Singapour. Ce soir, les autorités portuaires singapouriennes affirment que c'est, je cite, une perte momentanée de propulsion qui a empêché le bateau de garder son cap et d'éviter la collision. Les secours sont toujours à la recherche d'au moins 6 victimes ce soir et à l'instant, Joe Biden parle, je cite, d'un terrible accident.
Bonsoir Michel Virlogeux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieur aux ponts et chaussées. Vous avez fait 200 ponts dans votre carrière, monsieur Virlogeux, dont le viaduc de Millau et aussi le pont de Normandie. D'abord, on le disait, on parlait des images à l'instant. On a tous été très impressionnés par ce pont qui se tord et qui s'effondre comme un fil de fer au fond presque fin. Est-ce que ça vous a étonné aussi ou est-ce que la structure d'un pont suspendu de ce type est faite comme ça et s'effondre de toute façon totalement et en se tordant sur elle comme ça?
Alors d'abord, c'est pas un pont suspendu, hein, c'est un treillis métallique, hein, typiquement américain des années jusque vers les années 70. Alors, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on a un porte-container, hein, c'est pas un cargo, c'était beaucoup plus gros que ça, c'était un bateau qui faisait 110 000 tonnes et qui en plus entraînait un gros poids d'eau avec lui, hein, donc il y a probablement 200 000 tonnes qui est venu percuter une pile. Eh ben, il y a absolument plus la moindre chance de tenir. Le pont ne peut que s'effondrer.
Ça veut dire qu'aucun pont, même, monsieur Virlogeux, n'est capable de tenir face à un monstre de 117 000 tonnes comme ça.
Oui. Alors, ça, je suis à peu près persuadé que non. Quand on veut, d'abord, à l'époque, on ne tenait pas compte des risques de choc de bateau comme on le fait aujourd'hui.
1977, aujourd'hui, la création du pont.
Voilà, tout à fait. Mais à la fin des années 70, années 80, on a commencé à avoir pas mal d'accidents de pont. Le premier, ça a été en Tasmanie, puis il y en a eu un en Floride, il y en a eu un en Venezuela, en Suède. Et donc, maintenant, on en tient compte. C'est, par exemple, pour prendre l'exemple du pont de Normandie, eh ben, il n'y a pas de pile en rivière. On a éliminé le risque d'un choc sur une pile. Et comme un bateau complètement dehors de son circuit pourrait venir toucher le pylône nord, il est protégé par une enceinte.
Et c'est pour ça qu'on l'a fait, monsieur Virelogeux, c'est pour ça qu'on a construit comme ça le pont de Normandie, précisément en se disant, on évite au moins le risque de collision. C'est vraiment pour ça que ça a été fait.
Il y a deux raisons en réalité. Il y a celle-là, et puis il y en avait une autre aussi, c'est que il y avait un premier projet qui a été abandonné à l'époque de Raymond Barre parce qu'il voulait pas qu'il y ait d'emprunt de la chambre de commerce. Et à le premier projet, il y avait un pylône dans la Seine protégé par une île artificielle. Et cette île artificielle aurait favorisé la sédimentation dans la Seine, ce qui aurait rendu difficile la navigation vers Rouen, qui est un port céréalier important.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, sachant ce qu'on sait, sachant l'ampleur de ce genre de commerce-là, et la grosseur aussi des portes-conteneurs, on n'en construit plus des ponts comme le Francis Scott Keys ou pas ?
Je ne pense pas qu'on construirait. Aujourd'hui, si vous voulez, je vais prendre un exemple, parce que c'est toujours beaucoup plus parlant. Quand les Danois ont construit le pont du Storebælt, il y avait un projet des années 70 avec une portée de 350 mètres. Aujourd'hui, le pont, il est une portée sur la distance entre les deux pylônes. La distance de la passe qu'on va lécher pour les bateaux, c'est 1624 mètres. Et comme les bateaux ne sont pas... ça se manœuvre pas comme une trottinette, un bateau. Si vous voulez, les coups de barre, ils se donnent un kilomètre avant le pont.
Bien sûr.
Et donc, ils ont fait, les Danois ont fait des études de trajectoire pour voir quelle était la portée qu'il fallait donner pour être vraiment à l'abri.
Du coup, mon interrogation, Michel Virelogeux, pardon si je vous sors un peu de votre champ de compétences, mais c'est de se dire comment se fait-il qu'on laisse passer des portes-containers de cette taille-là et de cette importance-là sur une zone et sous un pont dont nous savons qu'il n'est plus en mesure de stopper un choc de ce type.
Alors,
en fait.
Je sors un petit peu, mais je reprends l'exemple du Danemark, puisque il se trouve que mon frère qui vit au Danemark est ici en ce moment. Et les navires étrangers, enfin les gros navires qui passent sous les grands ponts danois, on exige qu'il y ait un pilote qui monte à bord. Et ce n'est plus le capitaine, c'est plus le commandant de bord qui navigue, c'est le pilote qui connaît le truc. De même que les bateaux qui remontent la Seine, ils ont souvent un pilote.
Je pense que c'était le cas d'ailleurs sur celui-ci, en effet, qu'il y a un pilote qui monte. Mais comme vous nous le avez fort bien expliqué, Michel Virelogeux, à un moment, quand on est si près du pont, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Et c'est le résultat que ça a eu. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Virelogeux.
Et surtout une panne de commande.
Et une panne de commande, évidemment, sinon il n'y aurait pas eu d'accident. Vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, vous êtes passionnant. Merci beaucoup.
L'actualité à l'étranger ce soir, c'est aussi ce très maigre espoir pour Julian Assange. La justice britannique demande aux États-Unis de fournir de nouvelles garanties quant au traitement du fondateur de Wikileaks en cas d'extradition, alors qu'il risque là-bas 175 ans de prison. Washington a 3 semaines pour répondre. En Russie, après Vladimir Poutine, c'est au patron du FSB, les services secrets russes, d'accuser à son tour l'Ukraine d'être directement impliquée dans l'attentat qui a fait 139 morts à Moscou vendredi. Attaque revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique. Alexandre Bortchnikov affirme même que les services des services secrets occidentaux ont, je cite, facilité l'attentat. Et dans sa guerre contre l'envahisseur russe, l'Ukraine reçoit un nouveau message de soutien de la part de la France ce soir. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a pour la première fois évoqué la possibilité de recourir à des réquisitions dans l'industrie pour accélérer la production d'armes à destination de Kiev. Eric Bégala.
C'est une évidence, les cadences de production des armements ne suivent pas le rythme ni de la guerre en Ukraine, ni même celui d'autres engagements, comme par exemple celui des frégates françaises en mer Rouge, lesquelles ont déjà tiré 22 missiles antiaériens contre les drones ou les missiles des Houthis. Il faut que l'industrie suive, qu'elle produise davantage et plus vite, a martelé Sébastien Lecornu.
Pour la première fois, je n'exclus pas, si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, de faire des réquisitions ou de faire jouer le droit de priorisation, d'imposer aussi des stocks minimaux. Au moment où nous sommes, y compris de la situation sur la ligne de front en Ukraine, personne ne pourrait comprendre que le ministre des Armées ne fasse pas jouer ses pouvoirs de police. Donc ces questions de réquisition et de pouvoirs de police sont évidemment clairement sur la table au moment où je vous parle.
La réquisition des entreprises n'est pas le premier des outils qu'il utilisera, corrige aussitôt le ministre. En revanche, une injonction de priorisation des productions militaires pour les entreprises qui travaillent aussi bien pour le civil que pour le militaire nucléaire est à l'ordre du jour.
Sur la priorisation, oui, à court terme, je n'exclus pas de le faire. Je m'explique. Sur missile Aster, la question de prioriser chez les sous-traitants d'MBDA pour le missile Aster, la commande militaire en priorité sur une commande civile est quelque chose qui est évidemment complètement regardable.
La base industrielle et technologique de défense française compte autour de 4000 entreprises. La plupart sont des PME.
Éric Biégala, spécialiste défense de France Inter.
La police grenobloise recherche activement l'homme à la trottinette.
C'est ainsi que le parquet de Grenoble surnomme ce suspect soupçonné d'avoir commis plusieurs viols et agressions sexuelles dans la région ces dernières semaines. Un appel à la vigilance a même été lancé sur les réseaux sociaux. Bonsoir Delphine Evenou.
Bonsoir.
Et le procureur de la République de Grenoble a donc décidé de communiquer ce soir sur cette affaire.
Oui, après cette alerte citoyenne lancée dimanche sur le réseau Instagram, sur un homme armé qui a agressé plusieurs femmes la nuit dans différents secteurs de l'agglomération grenobloise. Éric Vaillant, le procureur de la République, a donc donné quelques précisions sur cet homme soupçonné d'avoir agressé au moins 8 femmes âgées de 20 à 27 ans, des violences, 2 agressions sexuelles et 3 viols commis entre la fin janvier et la mi-mars dans le centre-ville de Grenoble, mais aussi juste à côté à Saint-Martin-de-Vinou et à Saint-Martin-d'Hère, là où se trouvent les universités et quelques résidences étudiantes. Il s'agit d'un homme de 20 ans, dit le procureur, 1m70, roux, le teint pâle, les yeux marrons, habillé en noir, pas d'accent particulier. Il agit seul, repère ses victimes, les suit, puis les agresse et il roule donc en trottinette noire. Tous les policiers de Grenoble sont mobilisés, assure le parquet, pour tenter de le retrouver.
Les précisions de Delphine Evenou, service police-justice de France Inter. Ce n'est pas là le résultat des opérations Place Nette, mais le fruit d'une enquête au long cours pour démanteler un réseau d'importation de stupéfiants en France. La juridiction interrégionale spécialisée de Nancy annonce que plus de 800 kilos de drogue ont été saisis en fin de semaine dernière lors de perquisitions en Essonne, dont 400 kilos de cocaïne.
Les Français commandent de moins en moins de repas.
Oui, la livraison à domicile qui a explosé durant les années Covid est en perte de vitesse pour la deuxième année consécutive. Manon Derdevé, l'inflation est passée par là.
Se faire livrer son repas le soir en rentrant du travail, une habitude pour Mélanie devenue beaucoup moins fréquente depuis quelques mois.
Parce que ça a augmenté fortement en fait, faut pas se leurrer, au niveau des frais de service, au niveau des frais de livraison, des enseignes en fait, il y en a un peu moins et en plus de ça c'est beaucoup plus cher.
En France, le marché de la livraison a baissé de 5% en 2023 d'après François Bloin, président fondateur du cabinet de conseil et d'études en restauration Food Service Vision.
L'inflation générale en restauration a pris 20% sur 2 ans. Les opérateurs de livraison ont augmenté leurs coûts de service et les restaurateurs ont monté leurs commissions. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qui fait qu'on peut se retrouver aujourd'hui avec des prix qui sont parfois entre 20 et 30% plus chers.
Des prix plus élevés mais aussi moins d'offres de la part des restaurateurs. Une nouvelle stratégie selon Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à Paris en Ile-de-France.
Les restaurateurs, par moment, privilégient la vente en porte. Ils préfèrent que le client vienne chez eux, se déplace. Alors pour ça, ils font des tarifs moindres, mais ça leur permet aussi de faire découvrir leur établissement aux clients et peut-être susciter l'envie une prochaine fois de venir dîner et non pas de se faire livrer ou de venir chercher à emporter.
Pour continuer d'attirer, les plateformes multiplient les promotions et élargissent leurs offres en s'ouvrant aux épiceries fines ou aux supermarchés par exemple.
Manon Derdevé, service économie et sociale de France Inter.
La Seine-Saint-Denis va distribuer 150 000 billets gratuits pour les Jeux de Paris.
Olympiques et paralympiques confondus, le département le plus pauvre de France, qui compte plus d'1 600 000 habitants, accueille entre autres le village olympique. On savait que des billets seraient ainsi offerts. On a maintenant le chiffre précis. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Les élus de Seine-Saint-Denis veulent en fait réaffirmer que ces jeux ont une dimension populaire.
Oui, faire taire les critiques ou les polémiques sur des billets qui seraient inaccessibles aux habitants de Seine-Saint-Denis. 17 000 places seront donc distribuées aux collégiens du département, 5 000 au mouvement sportif. La liste se décline ensuite à toutes les personnes les plus éloignées de l'événement. Au total, un habitant sur 10 en Seine-Saint-Denis recevra un billet gratuitement, soulignent les élus. Ces jeux ne seront donc pas de l'entre-soi, réaffirme le maire de la ville de Saint-Denis, Mathieu Hanotin.
On s'est donné les moyens de pouvoir montrer qu'un maximum de public qui d'ordinaire ne serait pas allé spontanément au stade, eh bien demain pourront y aller grâce à une politique sociale et territoriale en termes de billetterie extrêmement forte pour que tous les habitants d'une manière ou d'une autre puissent être impliqués dans les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Ces 150 000 places distribuées gratuitement sont un juste retour pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, souligne de son côté Stéphane Troussel, président du département.
considère que c'est un juste retour pour un territoire qui est à la fois très jeune, très populaire, surtout après avoir connu beaucoup de travaux, beaucoup de difficultés, des nuisances pour les habitants. Eh bien, il faut maintenant qu'ils puissent participer à la fête.
À l'exception de 30 000 places offertes par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, tout le monde a mis la main à la poche, de l'État aux communes, en passant par la région Île-de-France, pour offrir ces 150 000 places aux habitants de Seine-Saint-Denis.
Laurent Kramer, avant les Jeux, il y aura l'Euro de foot au mois de juin, dernier match de préparation ce soir pour l'équipe de France face au Chili à 21h à Marseille. L'Euro 2024 auquel l'Ukraine espère bien participer. Question de sport, question de symbole aussi. Elle joue sa qualification en match de barrage face à l'Islande ce soir à 20h45. Comme ce sont les Ukrainiens qui accueillent, entre guillemets, le match est délocalisé en Pologne.
Kevin Dufraîche, merci. À tout à l'heure sous les radars. On jette un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Élodie Calac, bonsoir. De bonnes pluies encore ce soir.
Oui, elles se décalent progressivement vers l'est. Elles sont encore soutenues sur le quart sud-est. La neige s'abaisse vers 800 mètres sur les massifs et même vers 400 mètres la nuit prochaine sur Loire, Haute-Loire et Isère qui sont en vigilance orange entre minuit et 9h demain matin. La neige remontera vers 800 à 1000 mètres en cours de journée de demain. Il pleuvra encore le matin sur les régions de l'est jusqu'à la Corse, de l'Alsace jusqu'aux Alpes pour l'après-midi. D'autres pluies circuleront près de l'océan demain matin, puis du massif centrale au nord de la Seine l'après-midi avec du vent. De l'Aquitaine au nord-ouest, là ce sont des averses qui prendront le relais avec du vent fort, un risque d'orage pour la soirée. Et puis ce sera plus calme, du Roussillon jusqu'au Var avec du soleil.
Et des températures en baisse.
3 à 7 degrés souvent le matin, un petit peu moins même vers les massifs. Et puis l'après-midi, comptez 9 à 13 degrés sur une grande partie nord du pays et jusqu'à 14 à 17 de l'Aquitaine à la Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.